Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cet entretien économique qui va être consacré à un métier un petit peu particulier, à savoir l'architecture d'intérieur pour les professionnels. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Cécile Soulier. Bonjour.
Bonjour Jean-François.
Bonjour Cécile. Donc vous avez, avant d'entrer vraiment dans votre cœur de métier, en quelques mots, vous êtes issu du marketing, vous avez bossé pour Gell Evans, entre autres.
Exactement.
Votre parcours.
Alors, mon parcours, effectivement, vous avez presque commencé par la fin. J'ai fini, on va dire, mon premier parcours professionnel par Gell Evans dans l'industrie de la mode, où j'étais déjà très intéressée par le design d'espace, on va y venir, et où effectivement, j'avais une responsabilité marketing à l'international. Sachant que juste avant ces 12 années dans cette industrie-là, j'ai travaillé pendant 15 ans en agence. Ce qu'on appelait au début agence de publicité, puis agence de communication 360, avec toujours alors d'abord cette appétence et puis cette spécialité sur le marketing, où depuis toujours, finalement, pendant 15 ans, j'ai accompagné les entreprises pour les conseiller par rapport à leur marque, pour à la fois générer du trafic dans leur point de vente ou bien générer du trafic vers leurs produits. Donc, avec un parcours, on va dire, très commerce, retail, comme on dit, à la fois marketing.
Et marketing.
Qui s'est fini vers le marketing international chez Gell Evans, avec mes premiers pas dans le design d'espace, vraiment où je me contentais de le toucher du doigt et où ensuite j'ai décidé d'aller vers d'autres horizons.
Et c'est pour ça que vous êtes avec nous aujourd'hui. Et ces horizons, c'est donc le métier d'architecte d'intérieur. Jusque-là, tout le monde connaît. Mais vous, c'est pour les pros. Comment vous pourriez définir votre métier en quelques mots?
Alors, en quelques mots, je dirais, et c'est assez simple à comprendre, je dirais qu'aujourd'hui, alors avant c'est vrai aussi, mais plus encore qu'hier, vraiment l'architecture d'intérieur est devenue un levier à la fois de réussite pour une entreprise, quel que soit son business. Aujourd'hui, on a envie d'ouvrir un restaurant, mais l'architecture d'intérieur, c'est loin d'être uniquement une question d'ornementation, c'est vraiment une question d'agencement, d'aménagement d'espace. Et puis, si on est une entreprise qui vend un produit, donc une entreprise issue du commerce, encore une fois du retail, là aussi, on a besoin d'expertise d'architecture d'intérieur pour faire revenir les clients, j'ai envie de dire. C'est pour ça que je fais un petit peu une différence avec avant. Pour faire revenir les clients sur le lieu de vente. Et là, effectivement, c'est là où moi, j'interviens avec une méthodologie bien particulière.
En quelques mots, cette méthodologie, parce qu'on connaît tous, on a tous connu forcément des bureaux, il y a eu l'ère du bureau individuel, l'ère de l'open space. Concrètement, dans les faits, ça signifie quoi, cette façon de réaménager l'espace?
Alors, effectivement, si on prend l'exemple du bureau, aujourd'hui, il y a un vrai besoin de bien-être au bureau. Alors, on le sait, il y a plein d'études qui sortent tous les jours sur les employés qui veulent avoir du télétravail de manière forcément inclue et induite dans leur contrat. Mais il y a aussi des employés, des entreprises qui ont besoin de produire, qui ont besoin de créer, donc d'avoir une ambiance de créativité et de voir revenir, j'ai envie de dire, leurs employés au bureau. Et ça, au-delà, souvent je donne cette image-là, mais au-delà d'une plante verte, au-delà d'une ambiance agréable, moi je vais intervenir en tant qu'architecte d'intérieur sur vraiment peut-être la modularité des espaces, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on le sait, il y a un vrai enjeu pour une entreprise et ses bureaux, c'est qu'il y a moins de mètres carrés, d'accord, avec tout ce qui se passe dans l'immobilier. Effectivement, moi je vais intervenir sur comment on peut moduler l'espace, avoir quelque chose de flexible, peut-être que le matin, en termes de management ou en termes de collaboration, peut-être qu'un chef d'entreprise a besoin que ses employés soient concentrés, donc peut-être isolés, on va dire, alors que l'après-midi, c'est plus une zone d'échange et aujourd'hui, il faut essayer de lutter contre trop de télétravail. On n'est pas uniquement en productivité, on doit créer, on doit innover et je crois que c'est ça le rôle d'une entreprise. Donc, moi, vraiment, mon approche, c'est celle-ci, c'est de faire en sorte d'accompagner les chefs d'entreprise aussi pour des problématiques de bureau, à faire revenir les employés pour que, justement, ils puissent être là pour créer, pour innover et pas uniquement échanger devant la machine à café. Voilà.
Il n'y a pas que ça, effectivement.
Exactement.
Sur ces deux aspects que vous avez bien décrits, le côté boutique, le commerce et le bureau, quoi qu'il en soit, vous avez deux axes de travail qui sont très particuliers, Cécile.
Effectivement, quand moi j'ai décidé de me former dans l'architecture d'intérieur, dès le départ, ma méthodologie était assez claire. C'était vraiment de mettre mes compétences marketing au service de l'architecture d'intérieur. De deux manières différentes. La première, c'est que lorsque un client m'interroge, par exemple sur un restaurant, sur un bistrot, je vais aller étudier les enjeux de sa région. sa concurrence, mais aussi les enjeux de lui en tant que chef d'entreprise. Comment il va générer du chiffre d'affaires? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la restauration? Quelle est la pression à laquelle il doit faire face? Anti-gaspi, etc. Pourquoi on arrive de moins en moins à recruter dans la restauration? Tout ça, ça va jouer sur l'agencement que je vais lui proposer, fatalement, pour que les gens, les employés ne se sentent pas uniquement bien, mais qu'on ait une fluidité de circulation. Donc ça, c'est important. Donc les enjeux du secteur d'activité. Et puis, bien sûr, dans ma deuxième méthodologie, parce que je viens de là aussi, tout ce qui est tendance de consommation, donc ça, c'est extrêmement important. Et donc, ça me fait arriver sur les attentes de la cible de mes clients. Et aujourd'hui, pour moi, concevoir un espace, architecturer un espace, c'est pas forcément déconstruire, pas forcément démolir, c'est peut-être démolir, mais au service d'un espace qui va être fait pour répondre aux attentes des clients. La multi-expérience qu'on connaît aujourd'hui, notamment le besoin de vivre un déjeuner à la fois de manière intime pour un déjeuner pro ou à la fois de manière moins intime un soir pour partager un moment de convivialité. Donc tout ça, ça impacte énormément sur l'agencement.
Si on vous écoute bien, ça veut dire, enfin, j'imagine, me trompe peut-être, mais il y a sûrement beaucoup de pédagogie à faire auprès des chefs d'entreprise, que ce soit dans un bureau ou dans un restaurant ou une boutique. J'imagine que vous avez ce travail-là aussi.
Oui, il y a beaucoup ce travail-là. D'ailleurs, en général, hein, mes clients sont assez étonnés de mon approche parce que j'arrive souvent avec une approche d'abord sur les tendances qui se développent actuellement sur leur marché, à la fois sur les besoins de leurs usagers. Si je reprends le bistrot, si je reprends une boutique, qui va vivre dans cette boutique? Qui va être à la vente? De quelle manière? Est-ce qu'elle va incarner la marque? De quelle manière est-ce qu'elle va incarner la marque? Donc effectivement, il y a vraiment des enjeux de ce côté-là. Et puis effectivement, il y a de la pédagogie à faire parce qu'aujourd'hui, l'architecture d'intérieur, c'est, j'ai envie de dire, un des leviers effectivement pour aménager l'espace. Et trop souvent encore aujourd'hui, ça peut être considéré comme un choix de couleur. Donc non, c'est pas uniquement un choix de couleur, c'est beaucoup, beaucoup de choses avant. Et encore une fois, c'est vraiment un parcours client qui doit être optimisé, une cloison qui doit être à cet endroit-là pour telle ou telle raison. Et tout ça, c'est pas au hasard.
Et il y a un moment donné, dans la conversation, dans le conseil que vous apportez, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on passe du conseil à finalement persuader le client que la démarche, en fait, c'est celle qu'il faut suivre?
Alors, très souvent, moi, j'arrive effectivement avec mon lot d'études, mon lot d'analyses. Et puis, j'ai presque envie de dire, je vais assez loin, parce que je vais aussi vraiment sur le terrain. Je vais interviewer, je vais interroger la cible. Hein, là, effectivement, c'est très c'est une démarche très marketing.
De l'autre côté, journaliste aussi, finalement.
Oui, un petit peu. Alors. Mais effectivement, à un moment donné, on va dire que la force de persuasion, elle arrive aussi parce qu'on va démontrer quelque chose. Hein. Et encore une fois, on va démontrer quelque chose à travers un plan architectural. Mais ce plan architectural, il ne peut pas, absolument pas, pour moi, être décorrélé d'analyses qui ont été faites au préalable. Donc, la force de persuasion, elle arrive presque très logiquement, puisque je passe souvent beaucoup de temps, vous parliez de pédagogie, je passe souvent beaucoup de temps à démontrer les choses à mon client pour lui démontrer qu'ensuite, voilà, du coup, le parcours client sera celui-ci, le parcours de vos usagers sera celui-là.
In fine, justement, quand la démarche est en marche, si je puis dire, tout fonctionne, le contrat est signé, pardon, le résultat, c'est de l'image pour le client, c'est du chiffre d'affaires, c'est de la notoriété. Comment on peut qualifier finalement à la fin le résultat du travail accompli?
Alors, si je commence par, on va dire, le dernier critère qui est la notoriété, ça peut aussi être de la notoriété. Si je reprends un des projets qui est sorti de terre au mois de novembre, j'ai accompagné également le client sur toute la partie en fait communication, puisque je suis aussi là pour lui prouver que le lieu est un espace de communication. En fait, aujourd'hui, un client vient vous voir pour créer une boutique. Cette boutique, ça va être un outil de promotion. D'accord ? Donc, effectivement, c'est à la fois de la notoriété. Mon objectif, c'est qu'il n'y ait pas de gap entre la notoriété d'une marque et l'expérience que le client va vivre lorsqu'il rentre dans la boutique. Ça, c'est extrêmement important aussi. Et effectivement, c'est du chiffre d'affaires. Puisque l'idée, c'est de faire revenir les gens en boutique. On en discutera après, mais c'est très important aujourd'hui de faire revenir les gens dans des boutiques physiques.
Physiques, oui.
Voilà. Donc, créer un espace qui crée une expérience, c'est effectivement pour lui un des leviers pour créer du chiffre d'affaires additif, j'ai envie de dire.
Dernière question avant de venir à la vraie dernière question. Oui. L'avenir de votre profession, vous la voyez comment, justement, au vu des tendances de la société, de tout ce que vous pouvez palper, comment vous vous projetez dans les années qui viennent?
Alors moi, je pense qu'en fait, il y a aujourd'hui beaucoup de marchés qui sont en réflexion. Je vais parler par exemple de la silver economy. On commence tous un petit peu à en entendre parler, à étudier ce qui se passe du côté des seniors et des très seniors. Et effectivement, typiquement, pour moi, il y a des marchés qui n'ont pas encore eu cette approche-là, d'étudier les attentes du client pour pouvoir lui proposer un lieu qui lui convienne. Donc pour moi, je le vois plutôt positivement, voilà, j'ai envie de dire. Et puis pareil sur le commerce, hein. Aujourd'hui le commerce vit une réelle révolution. On a parlé de digital, maintenant on parle de figital. Oui, il y a des modèles à réinventer, c'est
bien
une
sûr.
Certitude.
Une certitude, ouais. Voilà. Vous verrez nous en parler dans quelques mois.
Avec plaisir.
Pour la suite. Dernière question, Cécile, une tradition dans l'émission, je demande toujours à mes invités l'actualité qui vous a marqué récemment.
Alors, j'aurais pu parler de la place de la femme, mais en fait, c'est trop court pour moi. Donc, j'en parle.
On a quelques minutes, effectivement, malheureusement.
Non, alors moi, j'ai une actualité qui m'a marquée cette semaine. C'est une étude qui vient de sortir de Vogue Business, effectivement, qui est extrêmement intéressante et qui est en fait une étude qui compare le comportement d'achat entre les millennials, donc qui ont entre 25 et 35 ans, d'accord, ce qu'on appelle la génération Y, et la génération Z, celle qui va arriver sur le marché du travail, qui représentera demain un employé sur deux. Et donc, j'ai lu cette étude extrêmement intéressante sur la manière dont cette génération Z est perçue aujourd'hui, c'est-à-dire hyper connectée, surconnectée.
C'est l'image qu'on en a, oui.
C'est l'image qu'on en a.
Bien sûr.
Et finalement, on se rend compte qu'à 70%, ils auraient envie d'acheter, lorsqu'ils sont dans une expérience shopping, envie d'acheter donc dans la vie réelle, dans un commerce physique, envie d'acheter quelque chose. Alors qu'en phase 2, ceux qui sont un petit peu plus âgés, les 25-30 ans, c'est uniquement à 3 points de moins qu'ils ont envie effectivement de passer à l'acte d'achat. Donc comme quoi, je crois que c'est une petite leçon à en tirer sur la manière dont aujourd'hui, on peut aussi faire évoluer le commerce. Finalement, les jeunes sont aussi à la recherche d'un retour d'expérience dans la vie réelle.
Et donc de voir des vrais gens, comme on dit.
Exactement.
Ce qui, effectivement, est beaucoup plus pratique.
Exactement.
Mais le Covid est passé par là. Hein. Vous savez, sûrement, je pense
tout
que... Merci Cécile Soulier
d'être
venue jusqu'à
merci
nous.
Merci Jean-François.
Merci, à très bientôt.
À bientôt.
Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez bien sûr retrouver l'émission, comme d'habitude, sur nos réseaux sociaux, notre chaîne YouTube et sur notre site internet. D'ici là, passez une très bonne fin de journée à l'écoute de Lure Entreprise. À bientôt.